Le 17 novembre prochain, la République tchèque fêtera le 22e anniversaire de la chute du régime communiste. Au micro de Radio Prague, Michel Perotino, politologue et spécialiste du Parti communiste de Bohême et de Moravie, revient sur l'histoire du Parti communiste tchèque. Première partie de l'entretien de la création du Parti communiste tchécoslovaque à la libération des pays tchèques en 1945. C'est avec Paul Bauer.
Chapitre de l'histoire. Michel Perotino, bonjour.
Bonjour.
Alors une première question, quand le Parti communiste a-t-il été créé et dans quel contexte politique ?
Le Parti communiste a été créé en mai 1921. Le contexte politique, il est double. D'une part, c'est le contexte de la création de la Tchécoslovaquie, qui influe sur, évidemment, la situation politique et, en particulier, sur la situation au sein de la social-démocratie, qui va donner naissance, assez classiquement, au Parti communiste. Et puis, l'autre contexte important, évidemment, c'est la révolution russe.
Y a-t-il déjà des liens étroits avec l'URSS à ce moment-là?
Alors, avec la Russie bolchevique, avec la Russie donc révolutionnaire, il y a des liens étroits, on peut pas dire vraiment étroits, mais il y a très certainement des liens pratiques, puisqu'il y a beaucoup de Tchécoslovaques qui sont encore en Russie à ce moment-là, et qui sont en train de rentrer, notamment par exemple les légions tchécoslovaques. Et puis il y a des liens plus politiques, par exemple Schmeral, qui est un des dirigeants importants de la social-démocratie à l'époque, qui va en Russie, au début de 1920. Et donc effectivement, il y a déjà des contacts qui vont mener, entre autres, à la création du Parti communiste.
Alors le parti est créé en 1921. Quel poids a ce parti dans l'entre-deux-guerres? Quelle est la place de ce parti dans le paysage politique de la Tchécoslovaquie jusqu'en 1938?
Alors c'est un parti qui va très rapidement en fait participer, en tout cas aux élections, mais qui se positionne alors sur les 20 années, qui se positionne de manière un petit peu ambiguë, parce que sa position va évoluer. Elle va évoluer notamment compte tenu de l'élite du parti qui va profondément se modifier dans la deuxième moitié des années 20. Donc il y a, si on schématise, il y a deux temps. La première partie des années 20 où le parti se constitue, il commence à créer ou à régénérer son idéologie, à se rattacher bien sûr à la révolution bolchevique et à tenter de s'insérer dans la Tchécoslovaquie à l'époque en train de naître. Disons, pour schématiser, pour simplifier, c'est notamment le courant de Schmeral. Dans la deuxième moitié des années 1920, le parti va entamer un processus de transformation interne que l'on appelle bolchevisation du parti, qui, là aussi, pour faire très vite, tend, disons, à insérer le parti communiste dans la sphère d'influence soviétique.
Donc le rapprochement vers l'URSS est inéluctable à ce moment-là.
C'est un rapprochement qui est là aussi dans la ligne classique des partis communistes d'Europe, c'est-à-dire l'insertion des partis dans l'international communiste. Et c'est relativement important pour bien comprendre comment fonctionne un parti communiste. Tous les partis communistes sont des entités territoriales, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent sur un territoire donné. Et donc il n'y a pas de clé nationale à ce moment-là. Ce sont des partis donc internationalistes, cosmopolites, qui ont vocation à, disons, préparer le terrain pour la révolution future. Et à ce moment-là, évidemment, le pays de référence, le parti de référence, c'est évidemment l'Union soviétique.
Et les relations avec les autres partis communistes en Europe centrale à ce moment-là?
Ce sont souvent des relations qui sont filtrées par le biais de l'international communiste, qui évidemment, va normaliser certaines relations au sein du mouvement communiste. Mais c'est là aussi relativement important pour bien comprendre la particularité du mouvement communiste tchèque. le développement des partis communistes en Europe centrale est très inégal. Et il y a des partis communistes qui fonctionnent très bien. Le parti communiste de Tchécoslovaquie à l'époque, qui est plus un parti d'ailleurs qui fonctionne dans la partie tchèque que dans la partie slovaque. Et les partis qui sont embryonnaires, qui sont très faibles, qui n'ont aucune souvent existence, par exemple parlementaire, au contraire du parti communiste de Tchécoslovaquie.
Dans quel pays, par exemple?
En Pologne, par exemple, en Hongrie. Le développement du mouvement communiste n'est pas comparable à la situation tchèque, qui, si on reprend le contexte européen, est beaucoup plus comparable à ce qui se passe par exemple en France, en Italie. C'est-à-dire que c'est un parti qui s'est très bien implanté, qui a une base très importante et qui fonde son action notamment sur certains bassins industriels. Donc c'est vraiment un parti qui, en tout cas dans les années de l'entre-deux-guerres, essaye de se fonder comme un parti ouvrier de révolution future.
Donc lors des dernières élections législatives en 1935, quel est le poids du Parti communiste ?
De tête, c'est un poids tout à fait remarquable et tout à fait honorable. Le Parti communiste dans cette période va tourner autour de 10%. Donc c'est un parti déjà bien installé dans un pays qui est au niveau partisan très morcelé. Donc c'est un parti qui a déjà une dimension parlementaire.
Est-ce qu'on reconnaît une forme de clivage nationalitaire dans les affiliations au parti ou au moins dans son électorat ?
À mon avis, c'est plus un clivage social ou socio-économique qu'un clivage national, en tout cas dans cette période des années 30. Tout simplement parce que le parti communiste de Tchécoslovaquie est plus implanté dans la partie plus industrielle du pays, donc ce qui veut dire, pour être plus concret, dans la partie de la Bohème actuelle. Et le parti... disons jusque dans la première moitié des années 30, n'est pas clivé au niveau national. L'arrivée ou la montée en puissance du parti de Heinlein va sans doute un petit peu modifier la donne, effectivement.
Donc en 1938, sont les accords de Munich, la Tchécoslovaquie disparaît. Quel est le destin du parti communiste à ce moment-là?
Alors, le Parti communiste, pour l'essentiel, en fait, va entrer en clandestinité. Et il y aura d'ailleurs plusieurs comités centraux clandestins. Et une partie de l'élite va partir en exil, principalement à Moscou. Le parti, pour schématiser encore une fois, le parti va être un des moteurs très importants de la résistance tchèque, donc dans la lutte contre l'Allemagne nazie.
Et donc à la sortie de la guerre, comment finalement le Parti communiste récupère sa position ou se réinstalle dans la Tchécoslovaquie libérée?
Alors cette réinstallation entre guillemets du Parti communiste, elle est évidemment compliquée par cette existence de deux légitimités guerrières.
Qui sont
celle de la clandestinité, celle de la résistance sur place, et puis celle de l'exil. Et à cet antagonisme, en quelque sorte, va également venir se greffer, par exemple, notre forme d'antagonisme, qui est ceux qui ont participé aux brigades internationales en Espagne et ceux qui n'y ont pas participé. Et on va voir, en fait, que à partir de l'après-guerre, tous ceux qui bénéficiaient de cette légitimité de la clandestinité, de la résistance, des interbrigades, vont très rapidement, en fait, être exclus de l'élite du parti.